I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais, on va lui refaire un nouveau trop de balles à ce film. Je veux que ça soit ça ma sonnerie de SMS maintenant.
Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui cette semaine chausse sa plus belle paire de lunettes de piscine pour se mettre au diapason de Midnight Special, le nouveau film du diablement doué Jeff Nichols dont on évoquera tant qu'on y est la courte mais très chouette filmographie. Et pour ce faire, je suis accompagné de deux enfants prodiges de la critique, Daniel Andreev. Salut Daniel.
Salut Thomas.
Et merveille de la technologie, Arnaud Bordas est en duplex avec nous depuis sa villégiature dans le sud de la France, on dira pas où pour des raisons de vie privée. Bonjour Arnaud.
Bonjour Thomas.
Ah c'est bien, ça fait bien. Technologie à 0, moins un peu, moins 2.0. Allez, c'est Nos Ciné épisode 44 et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Midnight Special, on l'a dit, c'est donc le nouveau film du talentueux, en tout cas à mon goût, Jeff Nichols, à qui l'on doit déjà Mud, Shotgun Stories et le formidable Take Shelter, qui lui avait valu de remporter une flopée de récompenses en 2011, dont le Grand Prix de la Semaine Internationale de la Critique à Cannes. Avec ce nouveau film, il renoue avec son acteur fétiche, Michael Shannon, présent dans tous ses projets. Ici, il incarne un père en cavale avec son fiston qui, c'est assez important pour l'intrigue, a la particularité d'avoir de drôles de pouvoirs surnaturels. C'est donc une tentative claire et nette de SF avec, pour compléter le casting, quelques visages bien connus, Joel Edgerton, Sam Shepard, Kristen Dunst et même Adam Driver, Kylo Ren soi-même.
Things would break. It was like a feeling.
Kind of feeling.
Alors je sais que dans l'équipe de Nos Ciné, les avis sont très partagés, enthousiasme assez fort, on peut le dire, chez Daniel et beaucoup, beaucoup, beaucoup de réserves chez Arnaud. On va commencer, désolé Arnaud, par le positif, Daniel.
Alors oui, moi j'ai complètement adoré.
Ouais.
Si je voulais troller un petit peu, je dirais c'est qu'est-ce qui est arrivé au cinéma depuis que Shyamalan a pété les boulards, un boulard. Bah ça donne un film comme ça, c'est-à-dire un film qui a
qu'est-ce
vraiment
que tu veux dire par,
énormément
par
d'attention.
Rapport à Shyamalan.
C'est un film qui lorne vers le SF,
ouais.
Et en même temps qui a une grande intention narrative en termes de poser une famille, d'éléments simples, mais en même temps une grande portée philosophique. Il y a beaucoup de dimensions parce que finalement Midnight Special, finalement, c'est qu'une course poursuite à travers le sud des États-Unis.
Ouais.
Donc, ça nous raconte l'Americana, ça nous raconte les endroits de Jeff Nichols. C'est clairement les endroits qu'il
oui,
a connus
quand, films
quand il était gamin.
Au même endroit, hein.
Et en même temps, il y a une grande portée puisque c'est à la fois un E.T., c'est à la fois rencontre de troisième type, ça lorgne vers ces trucs-là. Mais en même temps, ça.
Mais c'est très marketé comme ça aussi, parce
ouais.
qu'on nous vend partout, oui, c'est le E.T. de Spielberg et tout.
Mais c'est vrai que c'est complètement E.T. Mais ça aussi la dimension paternelle que veut lui donner Jeff Nichols. C'est-à-dire, à chaque fois dans ses films, on en revient à l'angoisse, parce que Take Shelter, c'était ça, c'était un film sur les angoisses. Là, c'est un père angoissé qui doit protéger son fils face au FBI et la CIA, et aussi à une secte. Et finalement, ce n'est que ça, ce n'est qu'une course-poursuite. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette bagnole, la relation entre ce père et ce fils. Et ce fils qui est complètement mystérieux, tout ça. Le moins on en sait, le mieux on se porte en allant le voir en salle. Et c'est porté, il faut voir aussi le binôme qu'incarne Michael Shannon, qui est un peu le double à l'écran de Jeff Nichols,
oui,
qui est extraordinaire. Quel acteur puissant qui arrive à vraiment à faire passer énormément d'émotions avec très très peu d'effets. Son body language, ce mec est complètement dédié à ce film et il le porte complètement. Et les relations qu'il a avec son fils sont assez bouleversantes. Il y a, en très très peu de mots, tu sens qu'il se passe énormément de choses dans cette famille complètement disloquée et qui est remise ensemble par la force des choses. Moi, c'est un film qui m'a complètement bouleversé. Il est déjà dans mon top de l'année. c'est vraiment, je trouve que c'est un film extraordinaire. Et vraiment, Michael Shannon m'a vraiment, s'il y avait besoin une fois de plus de sanctifier cet acteur qui a pourtant le même âge que Leonardo DiCaprio, mais il n'a pas fait campagne pour avoir un Oscar, lui. Et tous les films qu'il fait, à chaque fois, il met énormément de lui-même. Ça se sent, c'est un acteur appliqué. Alors évidemment, il y a Man of Steel.
Mais c'est vrai, Man of Steel.
Horrible. Mais en même temps, c'est ça. Quand tu donnes du bon matériel à un grand acteur, il le monte à un autre niveau et ça devient un film vraiment, vraiment puissant. Et donc, maintenant, je suis
très, très enthousiaste.
Ce que Arnaud va dire.
Voilà, donc on va se retourner maintenant vers Arnaud. Arnaud, toi, ça ne t'a pas trop plu.
Ouais, j'ai même trouvé que ça relevait un peu de l'arnaque par rapport au buzz autour du film. Bon, après, moi, il y a deux choses que je veux dire avant de parler de la déception du film. C'est d'une part que je ne connaissais pas le cinéma de Jeff Nichols, puisque je n'ai pas vu ses films précédents. J'en avais évidemment beaucoup entendu parler, et en bien. Il y a même un film comme Mud, le sujet, ce que j'en ai vu, les images, ça m'intéressait, j'avais vraiment envie de le voir. Bon, il se trouve que je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Mais j'avais vu la bande-annonce de Midnight Special qui m'intriguait beaucoup quoi, et qui me donnait envie de voir le film. Donc j'y suis vraiment allé avec les meilleures dispositions hein, et détaché de tout présupposé, puisque j'avais de toute façon pas vu les autres films du Bonnard. Donc à partir de là, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'au début, c'est quand même relativement intriguant. Il y a quelques belles idées, notamment j'étais surpris par cette scène à un moment où ils roulent dans la nuit, ils coupent toutes les lumières, ils mettent le conducteur, là, Joel Edgerton, met ses lunettes de night vision là, pour pouvoir voir dans la nuit, et ils éteignent les feux et on a cette voiture, parce qu'on ne voit pas, il n'y a pas de plan subjectif quoi, en vision de nuit, mais on voit des plans assez jolis, bien éclairés, de cette voiture noire qui file sur une route noire dans la nuit. Quoi. Et voilà, bon, ils n'en font pas grand-chose narrativement, quoi, mais c'est joli. Et en fait, c'est avec ce genre d'idées, parce qu'il y a quelques idées comme ça, effectivement, les acteurs sont bien, tout ça, mais c'est avec ce genre d'idées où je me suis dit, tiens, bon, il n'en a pas fait grand-chose, quoi. Et au bout du compte, plus le film avançait, et plus je me disais ça à propos de tel élément de l'histoire, à propos de tel personnage, à propos de tel effet de mise en scène, plus ça avançait, et plus j'avais l'impression que je ne savais pas où allait le film, quoi. Qui brassait pas mal de figures déjà vues, quoi. Alors bon, effectivement, on a parlé de Rencontre du troisième type, de Stephen King aussi, de choses comme ça. Mais donc, il brassait pas mal de ces choses-là, et sans les renouveler... en me donnant l'impression voilà, d'aller un peu nulle part. Quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a des longues plages contemplatives un peu faciles qui poussent à ça, quoi, qui favorisent ça, cette impression d'aller nulle part.
Moi, au contraire, je trouve que la nuit, elle est assez bien utilisée. Ça devient un personnage en tant que tel, la route et la nuit. Pas de même manière que chez Michael Mann, par exemple. Mais il y a vraiment clairement une symbolique dans le film, puisqu'il se déroule entièrement de nuit, et en plus il faut protéger le gamin du soleil, donc c'est clairement un film qui vraiment symboliquement passe de la nuit au jour. Le film se termine quand le jour se lève, et au contraire, moi je trouve que ça lui donne une portée vraiment poétique, quoi. C'est de symbolique du père.
Ouais, mais...
après tu peux aller dans toutes les références bibliques, genre le père qui offre son fils à Dieu, tout ce que tu veux, mais je trouve que symboliquement et visuellement ça rend extrêmement bien pour un film qui est encore une fois une simple course-poursuite, hein. Voilà.
Arnaud.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire, Daniel, hein, sur la symbolique, et à la limite je pourrais être d'accord, toi, quoi, mais là je dis je pourrais au conditionnel, parce que la symbolique c'est au bon vouloir du spectateur, quoi, toi, quoi. Je veux dire, moi je parlais vraiment de narration.
Moi j'ai vu une référence qui revenait assez souvent et qui m'a un petit peu étonné dans les papiers que j'ai pu lire sur le film, parce que moi je ne l'ai pas encore vu, contrairement à vous deux, donc me spoilez pas trop la gueule s'il vous plaît. C'est des références à Un monde parfait de Clint Eastwood avec Kevin Costner. C'est sur le côté, on va dire, road movie, puis cette relation à deux. Se joue dans l'habitacle de la voiture. C'est quelque chose que toi, Daniel, t'as ressenti
aussi? Ouais, complètement, mais surtout c'est un truc assez difficile à faire, l'osmose avec un gamin, parce que
Oui, bah, les films avec enfants, normalement, d'habitude, c'est toujours nul.
Parce que, oui, les enfants, on a très vite envie de les noyer au cinéma. Et parce qu'ils font toujours les malins ou ils font des bons rôles d'adultes avec des mots d'adultes. Là, le môme est très neutre. Il est très, c'est pour ça que je pense aussi à Shyamalan. C'est qu'il fait, il fait gamin dans un film de Shyamalan, en fait. Mmh. Il est,
un bon film de Shyamalan, tu veux dire.
De Shyamalan de la grande époque.
C'est ça.
On fait la bise à David. non, oui, il y a vraiment un truc qui se passe en termes d'osmose, d'osmose entre les deux. Et ça se voit quand il lit des comic books et tu vois, et tout d'un coup c'est un gamin qui réapprend en deux heures, tu le vois en train de réapprendre à vivre, vivre comme un gamin normalement, parce que en fait ce qui se passe c'est que le gamin a été repris à une secte,
oui,
et donc tu sens qu'il y a eu, il y a quelque chose de pas normal qui s'est passé dans cette secte, et tout ça est vraiment pas expliqué de manière intentionnelle. Il y a clairement des choses qui d'ailleurs Jeff Nichols le dit, ouais, le dit, on a pris le scénario et on a occulté des parts entières, mmh, du scénario pour que justement garder une espèce d'atmosphère de mystère. Mais oui, Michael Shannon, il s'est joué un père, on l'a vu dans Take Shelter. C'est
dans, sûr, ouais, mais dans Take Shelter, il était un père assez inquiétant pour le coup, qui devenait un peu destructeur, même si est-ce l'histoire avait, lui donne raison.
Est-ce qu'il avait raison ou pas, c'est voilà, ça l'idée de Take Shelter, est-ce qu'il rêvait ou pas,
oui.
C'est un mec qui est habité par la foi en fait,
oui.
Et là c'est un mec qui est uniquement habité par l'amour de son gamin et par la destinée qui lui promet. Non, il y a clairement de référence à ce genre de cinéma, oui, ce cinéma d'osmose entre père et fils, et tu sens que c'est des trucs qui sont dans la tête de Jeff Nichols, oui, quoi. Évidemment c'est des films de jeune père, évidemment, oui. Ouais, c'est
Arnaud, cette relation toi entre le père et le gamin, en tant que père de famille toi aussi, quel regard t'as porté dessus?
Ouais, bon, sans plus, quand même.
Ah,
moi,
super.
C'est un père niçois, non, en même temps, hein, c'est pas pareil.
En fait, c'est bah, y a aucune émotion pour moi dans le film, hein, vraiment. Hein.
Ah ouais, putain, moi, il y a une scène.
Mais à
moi,
aucun
y a...
moment.
Mec,
à aucun
je veux juste, moment, je veux juste préciser.
Vous parlez pas l'un sur l'autre, pardon.
Je veux juste préciser, moi, il y a une scène qui bouleverse.
Pour moi, c'est très à l'image de la. Les personnages sont à l'image du personnage joué par Adam Driver, qui jouait dans le dernier Star Wars, hein, c'est qui joue un agent du gouvernement, en gros. Et il traverse le film, ce personnage et cet acteur, mais de totalement éteint, totalement. On a l'impression qu'il est en dehors de l'action.
Putain, moi je l'ai adoré.
Et moi j'ai fait vraiment le transfert par rapport à ce personnage. J'avais l'impression d'être ça, quoi. Donc après je comprends pas les références, si ce n'est qu'il y a un père et un fils, enfin, ou un père de substitution en tout cas. Mais un monde parfait, enfin justement, la narration à la Eastwood, c'est une narration dégraissée de au maximum, quoi. Ce qui n'est pas le cas de ce film-là. Encore une fois, moi, il y a plein de choses dans le film où ça ne mène nulle part, quoi. Et des personnages comme le gaz chez qui il s'arrête et que Michael Shannon surprend en pleine nuit au-dessus de son garçon en train
Pas de spoiler.
Ouais, sans spoiler, mais voilà, c'est régulièrement il y a des choses où on se perd comme ça. Je veux dire, Eastwood, c'est l'inverse de ça, quoi.
Eastwood, c'est limpide et ça répond à toutes tes questions.
Comment?
Eastwood, c'est vrai que c'est limpide et ça répond à toutes tes questions. Là, c'est clairement pas la même objectif.
C'est pas une question de répondre à toutes les questions. C'est une question de comprendre que celui qui est en train de te raconter l'histoire sait où il va, quoi. Qu'il a quelque chose à dire. Là, moi, l'impression qu'il m'a donné, Jeff Nichols, c'est qu'il avait rien à dire, et le peu qu'il avait dit et qu'il avait à dire, c'était pas grand chose, parce que on parle de Spielberg, on parle de Stephen King, c'est-à-dire de grands conteurs, de grands narrateurs, d'inventeurs, de figures marquantes. Là, ça n'invente rien, ce film. C'est que du déjà vu et du revu, quoi. Moi, j'aimerais qu'on me dise à quel moment, si ce n'est encore une fois plus des éléments de l'histoire qui permettent de faire le parallèle avec tel ou tel auteur, mais j'aimerais à quel moment Midnight Special est un film dit de la puissance narrative d'un Stephen King ou d'un Steven Spielberg. Moi, je ne vois ça nulle part, à aucun moment dans le film, quoi.
Le truc, c'est que le cinéma de Jeff Nichols, c'est un cinéma clairement qui lorgne vers Malick. Surtout la balade comment il s'appelait, la
balade Badlands,
la 1, hein,
la balade sauvage,
ouais, Badlands, la balade sauvage, ouais. Badlands, c'est un film qui volontiers reste ésotérique, qui il y a un contact avec la nature, et là en l'occurrence c'est la nature et l'homme, genre la route qui traverse complètement les États-Unis, enfin il y a vraiment beaucoup de symbolique là-dedans, et c'est un film auquel il faut souscrire, mais limite en bonne foi, tu vois, il faut clairement y mettre je dis pas que tu mets pas du sien, Arnaud, mais pas du tout, mais c'est un truc qui implique une espèce de dimension métaphysique. Il y a vraiment un lien métaphysique qui doit se faire entre le cinéma. Mais je comprends complètement que les gens ne peuvent pas souscrire à Malick ou pas souscrire au cinéma de Jeff Nichols. Mais quand tu vois, un film comme Mud est, qui pourtant a une histoire beaucoup plus simple et beaucoup plus, métaphysique encore. Et c'est un film qui... il faut te plonger dedans et il faut avoir une espèce de rentrer en harmonie avec ce que le mec te dit. Et il faut accepter aussi le fait que les choses ne seront pas nouvelles, mais qu'elles te parleront à ton cœur. Tu disais, moi, ça t'a pas ému. Moi, il y a une scène qui m'a complètement bouleversé. Il y a deux scènes qui m'ont complètement bouleversé dans ce film, sans même que je m'y attende, quoi, parce que j'y suis allé par surprise. Et parce que cette histoire me parlait, quoi. Cette histoire de simple histoire de père qui doit protéger son fils m'a bouleversé. Voilà, c'est tout.
Arnaud, un dernier mot ?
Ouais, non. Bah...
Bisous, Arnaud.
Non, mais justement, moi j'adore Malick, enfin, en particulier Tree of Life, qui est un des plus grands films de ces 20 dernières années pour moi. Quoi.
Tu iras au paradis grâce à cette phrase.
Voilà. Mais je trouve qu'on invoque un peu trop facilement Malick. C'est un peu comme Kubrick, des fois on a envie de dire foutez-leur la paix, quoi. Parce que c'est là, on parle de. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des scènes. Alors on prend un road movie avec des scènes contemplatives que tout de suite ça fait Malick. Je veux dire, sur le dernier. Naruto aussi, voilà. Alors il y a un rapport à la nature avec des personnages qui regardent la nature.
Ah, c'est méchant de mettre Naruto.
C'est pas mourir devant eux, tout ça. Alors tout de suite, on fait le parallèle avec Malick.
Bon, après, c'est le même directeur photo aussi. Ça aide aussi à ce qu'on fasse le parallèle.
Voilà, bah, forcément, voilà. Mais le truc aussi, c'est que Malick, par exemple, c'est tout à l'heure, je parlais d'inventeur de figures et de formes. Je veux dire, la manière dont il raconte Tree of Life, par exemple, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on avait vu précédemment. C'est, ne serait-ce que dans le montage, il y a une sorte de montage cubiste, des trucs comme ça. Ça, il n'y a rien de ça.
Pas du tout le même film.
Jeff Nichols, c'est très plan-plan. Je disais tout à l'heure, il y a quelques idées de plan de temps en temps, mais c'est des idées un peu culturales, voilà. Mais ça n'est pas un inventeur de forme. Hein, ça n'est pas quelqu'un qui travaille le langage cinématographique.
Je te conseille vraiment de regarder Take Shelter et Mud.
Alors, bah justement,
je ferai l'effort, mais c'est vrai que là, ça va pas.
Pour l'instant, t'es pas convaincu. Mais justement, puisqu'on en est au conseil, juste avant de se quitter, on va prendre un instant pour les recommandations d'usage, si possible, autour de l'univers de Nichols, mais c'est pas obligé.
Alors,
Arnaud, pour commencer.
Alors, bah, moi, je recommanderais tout simplement, puisque c'est vrai que le film a été beaucoup comparé à Stephen King, mais un beau roman, un très beau roman de Stephen King qui est. Peut-être pas le plus connu, mais qui s'appelle Charlie. C'était Firestarter en anglais.
Tout à fait.
Donc le bouquin, pas le film pourri qui a été fait au milieu des années 80 avec Martin Sheen et George Hitchcock. Mais le bouquin, donc, il raconte la fuite d'une gamine de 8-10 ans aussi, là, qui est douée de pouvoir de pyrokinésie, je crois.
C'est ça.
C'est-à-dire, elle peut mettre le feu à n'importe
tout
quoi.
Tout ce qu'elle veut.
Et donc, ça raconte sa fuite sur les routes américaines. Avec son père qui est là pour la protéger et avec des agents du gouvernement à leur trousse, dont notamment une figure d'Indien, d'agent du gouvernement, un Indien qui est un personnage. Stephen King s'appelle Rain Bird, c'est un personnage très mythologique, menaçant, tout ça. Et donc voilà, pour le coup, c'est un roman évidemment gorgé d'émotions. Et voilà, sur un thème, je pense que c'est pour ça qu'on a comparé Midnight Special à Stephen King, et donc sur un thème très similaire, avec un schéma d'histoire très proche, moi c'est l'exact amère de Midnight Special, c'est-à-dire c'est l'émotion, c'est l'imagination, c'est une très belle histoire, et que voilà, ceux qui ne l'ont pas lu, je conseille de lire ça plutôt que d'aller voir le film de
Daniel.
Alors moi, ça ne sera pas Stephen King, ma recommandation. Et ça ne sera même pas un truc de Jeff Nichols, puisque je savais qu'on allait parler de tout Jeff Nichols. Alors du coup, je vais rester sur un film de genre. Sais-tu que le mois prochain sort Ip Man 3 avec Donnie Yen, le plus grande star de films actuels de films d'arts martiaux. C'est probablement son dernier grand film d'arts martiaux, puisque maintenant il commence à être trop vieux. C'est un biopic sur la vie de Ip Man, le maître de Bruce Lee. Et alors, c'est pas aussi génial que le 1, c'est pas aussi limpide que le 2, c'est le plus crépusculaire, puisqu'en fait, à ce moment-là, la femme d'Ip Man est en train de mourir. Euh, et, et, Et alors, c'est servi sur des musiques de Kenji Kawai, mais surtout, c'est de la super baston. C'est vraiment Donnie Yen au sommet de son art. Et il y a une telle maîtrise dans l'art martial de Donnie Yen. C'est extrêmement impressionnant. Et en plus, ce qui est intéressant dans Hitman, c'est que c'est un maître d'arts martiaux, mais qui est aussi non-violent. Enfin, il aspire à la non-violence. Donc, toutes les bastons sont axées sur le fait qu'il doit mettre KO l'adversaire, mais pas l'amputer. C'est pas de la violence, c'est pas de la violence sanguinaire. C'est vraiment une violence très, très intelligente. Et en guest, il y a Mike Tyson qui fait le boss de milieu de niveau. Il y a un combat contre Mike Tyson et le but du film, c'est quand même de Wilson Whip. C'est quand même de rendre cohérent une baston entre trois minutes de baston entre Donnie Yen et Mike Tyson. C'est génial. C'est du ciné. Ok, c'est du ciné de genre, c'est du ciné d'arts martiaux, mais c'est moi, ça me fait plaisir. Et la scène de baston kung fu contre Muay Thai dans un ascenseur, j'en veux tous les jours.
Donc c'est Ip Man 3, on
l'a c'est dit, Ip Man 3, ça sort en direct. Alors pourquoi j'en parle ? Ça sort en direct DVD et VOD
ouais.
En 27 avril, je crois.
D'accord, très bien. Et bah, c'est noté. Voilà, nos ciné, c'est fini. Merci à vous deux. Merci à Jules, à la technique et autant que pour l'accueil. On se retrouve dans une semaine. Bisous Arnaud pour une émission de Au Vol, puisqu'il y sera question de Batman versus Superman, l'aube de la justice. Alors on l'a pas encore vu, mais il nous fait très très peur. On verra si nos craintes sont fondées ou pas. D'ici là, rendez-vous sur le web où vous attendent toutes nos anciennes émissions sur Jodorowsky's Dune, sur The London 2, sur The Revenant, sur les Oscars, sur Ave César et sur bien d'autres films, notamment sur Mad Max, c'est bizarre. Laissez-nous des petits messages, on les lit tous, on adore ça, même que des fois on répond. D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine.
Rosebud. Salut à tous, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo, c'est tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.